votre rendez-vous, Mon corps, ma vie, avec Hichem Ben Abbas Tergi, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, toujours un plaisir pour cette émission quotidienne.
Alors oui, émission hebdomadaire, puisqu'on se retrouve une fois par semaine. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Alors on s'intéresse aujourd'hui aux fausses couches. Et justement, avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite aussi nos auditeurs à poser leurs questions sur notre application Lux Radio.
Oui, Hichem Ben Abbas Tergi, bonjour, j'espère que ça va.
Merci, alhamdoulilah.
Alors, Donia le disait à l'instant, on s'intéresse à l'arrêt spontané de grossesse aujourd'hui, un phénomène qui touche visiblement 10 à 15% des grossesses. Dans quelles conditions surviennent les fausses couches et pourquoi sont-elles si fréquentes?
Et je vous dirais même plus, près de 50% des grossesses tombent spontanément. Vous voyez, c'est la fausse couche, ce n'est que la partie visible de l'arrêt de la grossesse. En fait, vous savez, pour faire un bébé, c'est de la multiplication de milliards de cellules, et chaque cellule donc va avoir une division, et il peut y avoir des erreurs à ce moment. Donc, on distinguerait deux fausses couches. Il y a la fausse couche spontanée, la première, qui est sporadique et qui est en fait essentiellement due à des aberrations chromosomiques, des erreurs au niveau de cette division et de cette multiplication cellulaire. Et donc, le bon Dieu les arrête précocement.
Ça veut dire que la femme, avant même de se rendre compte qu'elle est enceinte, eh bien, il y a fausse couche. C'est cela? Quand vous dites 50%.
C'est ce qu'on appelle des grossesses biochimiques. On estime à environ plus de 50% le nombre de grossesses biochimiques, c'est-à-dire que vous tombez enceinte et qu'elles sont éliminées au cours de vos règles sans même savoir que vous étiez enceinte.
D'accord.
On pourrait le savoir par un test de bêta-ACG qui prouverait qu'il y a eu grossesse, mais donc on le fait pas. On estime à environ 30%, je vous dis, les grossesses qui réussissent, enfin les fécondations qui réussissent à aboutir à environ un take-home baby, je dirais. Donc, grosso modo, la fausse couche, elle est clinique, je dirais, ça représente environ, comme vous dites, 10 à 15% des grossesses cliniques qui vont se terminer. Malheureusement, la femme, eh ben, elle est contente d'avoir eu son retard de règles. Et puis, patatras, elle saigne, elle découvre qu'elle fait une fausse couche ou que c'est une grossesse arrêtée avec un œuf qui se développe pas bien. On appelle ça un œuf clair. Ou bien elle saigne. Et je vous dis, je voudrais rassurer vos auditrices, c'est pas grave, c'est pas parce que vous avez fait une fausse couche que vous ne risquez pas d'avoir d'autres enfants et tout. Et donc il faut vraiment rassurer et donner un soutien psychologique à ces fausses couches sporadiques.
Dans ce cas-là, on peut dire que la nature est bien faite, on va dire.
Tout à fait, tout à fait. Par contre, c'est le problème, c'est quand vous refaites une autre fausse couche ou deux autres fausses couches. Là, on parle de maladie abortive.
Oui, on va en parler dans le détail tout à l'heure, Hichem Ben Abbas Tergi. Alors, vous écrivez dans votre livre que seulement 10% des fausses couches sont symptomatiques. Vous le confirmiez à l'instant. Est-ce que cela veut dire qu'il y a justement, vous le disiez à l'instant, plus de fausses couches que ce que l'on pense? Quels sont justement les symptômes qui accompagnent une fausse couche, Hichem Ben Abbas Tergi?
La fausse couche, c'est l'arrêt de la grossesse avec l'expulsion. C'est-à-dire, vous allez saigner, vous allez avoir des contractions et du saignement parce que l'utérus se contracte pour éjecter, pour éliminer cet œuf qui ne tient pas. Alors, des fois, malheureusement, on le voit aussi, il n'y a aucun symptôme et on le voit à l'échographie où la surveillance va nous montrer un petit œuf qui ne grandit pas, ou un œuf plus grand dans lequel il n'y a pas d'embryon. Et là, on va parler de grossesse arrêtée ou d'œuf clair. Alors ça va être asymptomatique. Mais la surveillance, il ne faut jamais se presser en obstétrique pour dire c'est une grossesse arrêtée, mais la surveillance sur un jour va nous montrer que ça n'évolue pas. Et ça, c'est totalement anormal.
Très bien. Et que faire justement en cas de fausse couche avérée quand on sait que voilà, c'est la grossesse arrêtée, hein?
Alors, l'essentiel au niveau de la fausse couche, c'est d'avoir une vacuité utérine, c'est-à-dire de vider cet utérus pour permettre une nouvelle grossesse par la suite. Et il ne faut pas qu'il reste des restes de trophoblastes, enfin de tissus embryonnaires, parce que ça peut gêner la prochaine grossesse. Donc, on peut attendre que ça s'est vécu tout seul, je veux dire, sauf que ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques semaines, et c'est là le psychologique de la dame qui veut, est-ce qu'elle veut tenir encore 2, 3, 4, 5, 10 semaines, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va s'éliminer, ou aller faire un curetage pour vider l'utérus. Et toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de supériorité de l'une ou de l'autre. Maintenant, avoir un bébé arrêté, enfin je dis un sac, ce n'est pas un bébé, un sac vide de quelques centimètres avec sans embryon à l'intérieur et qui va rester asymptomatiquement, certaines dames ne supportent pas ça pendant plus d'une semaine ou deux semaines et vous disent « je veux aller faire un curetage pour l'évacuer ». D'autres vont vous dire bon moi j'ai envie d'attendre ou j'ai pas d'argent ou et c'est vrai que ça se termine au bout de 2, 3, 4 semaines et ça s'évacue tout simplement.
Donc c'est une question de mental.
Oui, mais bien sûr. Non, c'est pas évident d'avoir quelque chose. Vous êtes contente d'avoir une grossesse, cette grossesse tant espérée, et malheureusement le gynéco vous dit non, ça grandit pas. C'est un coup dur. Et donc ce choc, des fois, il faut le temps pour l'absorber. Mais encore une fois, je dis dans les fausses couches sporadiques, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et ça ne veut pas du tout dire que vous ne retomberez pas enceinte, Inch'Allah. Donc le soutien psychologique est important.
Très bien. Et jamais la baisse tâchée, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On discute ensemble des arrêts de grossesse spontanée. Alors, le plus souvent, elles sont uniques et ne compromettent pas, vous le disiez à l'instant, le futur projet de grossesse. Mais il arrive aussi que les fausses couches soient à répétition. À partir de quel moment peut-on parler de maladie abortive?
Anciennement, on parlait de maladie abortive à partir de 3 fausses couches. 3 fausses couches consécutives sans grossesse. Maintenant, avec le développement des technologies et de la prise en charge, et même aussi par rapport au caractère social, psychologique de la dame, on commence à parler de maladie abortive à partir de 2 fausses couches consécutives. On commence à se dire, bon, il faut peut-être chercher une cause. Est-ce qu'il y a une cause traitable? Parce que dire à la dame qui a déjà fait 2 fausses couches, je ne vous fais rien, c'est normal, on attend la 3e, c'est un peu difficile, vous voyez.
Et on est plus dans l'urgence, on va dire.
Non, il n'y a pas d'urgence. Il y a un côté psychologique. Vous ne supportez pas d'avoir fait 2 pertes fœtales et vous attendez pas que vous espérez pas faire une 3e. Donc, il y a eu un consensus international récemment, enfin, l'Échereux 2017 est confirmé par l'Échereux 2019. Enfin, c'est les sociétés savantes qui ont dit, on parle de maladie abortive maintenant à partir de deux arrêts de grossesse comme ça. On peut commencer un bilan pour rechercher une cause et éventuellement donner un traitement préventif.
Justement, quelles sont les causes fréquentes de cette maladie et comment les rechercher?
Alors justement, il y a énormément de causes. Je dirais il y a 6 ou 7 grands volets de causes. Il y a les causes génétiques. J'ai dit il y a des malformations chromosomiques au niveau des chromosomes de chaque des parents, ou bien des fois génique, c'est-à-dire c'est pas au niveau d'un chromosome qui manque ou qui en plus, mais un petit gène qui est sur le chromosome. Et il y a des milliers d'anomalies. Donc, il y a cela, il y a la cause génétique, il y a surtout ce qu'on appelle les causes immunitaires. Les gens ne le savent pas, mais la grossesse est quelque chose où on accepte un non-soi. Le bébé vient à 50% de la maman, mais il vient aussi du 50% du papa qui est pas de nous. Et comment ça se fait qu'on réagit pas contre le bébé, contre ce bébé? Eh bien, en fait, il y a une tolérance immunitaire, c'est-à-dire le bon Dieu a bien fait les choses grâce à différentes hormones de la grossesse. Eh bien, la réaction du bébé, de l'immunité de la maman, fait qu'elle tolère cette grossesse qui est à 50% étrangère à elle. D'accord. Et donc, quand il y a des problèmes d'immunité, je dirais par exemple une grossesse jeune, une femme qui tombe enceinte la nuit de noces, donc il y a une tolérance immunitaire qui est moindre et qui fait des problématiques, qui peut faire la fausse couche, qui peut faire aussi d'autres anomalies qu'on appelle la prééclampsie, l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, parce qu'il y a une mauvaise tolérance immunitaire. Donc une deuxième des causes de ces fausses couches, de ces maladies abortives.
Donc si je comprends bien, plus on est jeune, plus il y a risque de faire une fausse couche. Non, c'est pas cela.
Non, quand on est très jeune, oui. Quand on est très jeune, oui. Il y a plus de fausses couches chez les jeunes filles de moins de 18 ans. Par contre, entre 20 et 40 ans, non, entre 20 et 35 ans, il n'y a pas vraiment de risque.
Il y a des statistiques qui démontrent cela.
Bien sûr, les fausses couches augmentent avec l'âge. Pourquoi? Parce que la qualité, c'est pas juste la quantité, donc le problème de pouvoir tomber enceinte, c'est aussi la qualité de cet ovocyte. On sait que cet ovocyte, à 40 ans, le risque de malformation, il est de 1%. À 42 ans, il est de 2%. Vous avez presque je dirais plus de 50% des embryons qui sont ce qu'on appelle aneuploïdes, qui sont anormaux. Et donc, la fausse couche augmente avec l'âge. Maintenant, c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est juste, je voulais dire, la première cause sont génétiques. Il y a des problèmes d'anomalies génétiques. Oui. La deuxième cause, c'est des problèmes immunitaires. C'est-à-dire, on tolère mal, cette greffe qui est un peu différente. Et donc, il y a une réaction qui fait que l'utérus ne prend pas bien, l'œuf ne s'implante pas bien dans l'utérus. Et donc ne se développe pas bien, et donc il y a insuffisamment de nutriments, même si c'est une goutte, mais elle n'arrive pas à ce bébé qui n'arrive pas à se défaire. Alors on le retrouve par exemple ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides, c'est des anticorps dans l'organisme de la dame qui vont aller attaquer les vaisseaux qui vont aller nourrir cet embryon qui met vraiment encore à des stades millimétriques. Il y a d'autres causes, des facteurs vasculaires, je dirais, il y a ce qu'on appelle la thrombophilie. C'est des maladies de la coagulation qui peuvent favoriser aussi ces fausses couches. Il y a des causes de malformation utérine. C'est assez rare, mais c'est une cause traitable. Quand vous avez une cloison utérine, c'est-à-dire un utérus partagé en deux par un mur, ce mur sur lequel va s'attacher le bébé est mal nourri, mal vascularisé, et donc ça, il y a plus de fausses couches chez les utérus cloisonnés. Quand on a deux utérus collés, deux hémi-utérus, ce n'est pas une cause de fausse couche.
D'accord.
Quand je parlais d'une augmentation des fausses couches, quand il y a des causes d'utérus cloisonné, mais qu'on peut traiter. Mm-hmm. Il y a aussi une autre cause.
Oui, allez-y, allez-y. Une autre
dernière cause. Oui. Les causes masculines. Quand le sperme n'est pas bon, eh ben, ça peut favoriser aussi la fausse couche. Parce que ben, le sperme est très mauvais et donc l'embryon, l'ovocyte et l'embryon n'arrivent pas à réparer les erreurs, génétiques. Il y a d'autres causes endocrinologiques. Vous avez un diabète déséquilibré avec une hémoglobine glyquée, la réserve de glucose qui est supérieure à 8, on double, voire en quadruple, le risque de fausse couche. Une hypothyroïdie. C'est aussi des causes comme ça et grosso modo, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui vont altérer la pollution, le stress, le stress est un facteur aussi important, qui vont altérer la qualité des gamètes, l'ovocyte et du spermatozoïde, et donc altérer l'embryon.
Et question, Richard Malabastagé, est-ce que toutes ces causes sont traitables?
Du tout, du tout, du tout. Il y a quelques causes traitables, je vous dis, équilibrer un diabète, équilibrer un problème de thyroïde. Après, on va donner, il y a des médicaments comme l'aspirine ou des anticoagulants qu'on va donner dans des terrains particuliers parce qu'ils fluidifient le sang et donc ils améliorent cette auto-immunité. Il y a quelques causes infectieuses, ce qu'on appelle la listeria. C'est un microbe notamment qui est dans le lait cru, dans les fromages crus, qu'on peut traiter, qui est aussi une fausse couche. Les facteurs sur lesquels on peut agir sont surtout nutritionnels et, je dirais, comportementaux.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez en l'absence de cause traitable? Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là?
Je viens de revoir un webinaire sur justement fait par un excellent prof à propos des recommandations de Lécheureux en 2019 sur les fausses couches. On peut agir sur le stress, on peut agir sur le tabac, on peut agir sur l'obésité maternelle et paternelle, et éventuellement l'alcool, c'est tout. Après, en fonction de la cause qu'on arrive à découvrir, s'il y a une cause immunitaire, on peut essayer l'aspirine, on peut essayer les anticoagulants si jamais il y a une cause particulière hématologique, de thrombophilie, de coagulation. On peut essayer les corticoïdes dans... quand il y a des maladies de système, un lupus qui chez la maman, c'est une maladie de système. C'est essentiellement ça qu'on peut essayer. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre juste des. Mais on prend pas des corticoïdes, on prend pas des HBPM, de l'héparine de bas poids moléculaire ou de la progestérone comme ça, juste parce qu'on a fait une fausse couche inexpliquée.
Oui, évidemment, c'est toujours consulter.
Voilà, mais même, alors, vous savez, le médecin a des difficultés des fois parce qu'on le voit, on le connaît, on ne retrouve pas la cause et on ne sait pas quoi faire. Et cette dame, on ne peut pas lui dire, madame, je ne peux rien vous faire, allez-y et essayez de tomber enceinte une troisième ou une quatrième fois, en espérant que ça tienne. Et donc, on est amené des fois donner de l'aspirine à des doses très faibles parce que on sait que ça peut marcher. Genre, ben, on va pas dire ça marche tout le temps, mais on sait que ça peut marcher. Et c'est aussi des fois des médicaments placebo qui vont donner quelque chose à la dame. Et surtout, c'est un médicament grosso modo sans aucun danger pour la grossesse.
D'accord.
Je parle de l'aspirine à dose faible.
D'accord. Bien.
L'aspirine, bon. Voilà.
Alors, merci beaucoup, en tout cas, Hicham El Abastagi, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes...
Une minute, si c'est possible, une minute.
Oui, rapidement.
J'insiste sur les facteurs comportementaux, maigrir, déstresser, arrêter le tabac, donc pour améliorer l'environnement des gamètes et donc pouvoir favoriser aussi donc une grossesse qui évolue à terme, Inch'Allah.
Très bien, d'accord, merci. Donc c'est des conseils qui sont toujours valables. Hein. Merci beaucoup Hicham El Abastagi. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Pour retrouver cette interview dans son intégralité, c'est possible.